Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous sommes déjà prêts à parler de l'actualité politique de la semaine et ça tombe bien parce qu'elle est à nouveau, on le dit toujours, mais là franchement cette semaine il y a eu beaucoup de matière à réflexion aussi, hein, pas seulement de la petite politique, des petites manœuvres, des intrigues de coulisses, des gens qui démissionnent ou des affaires comme ça. Non, là, il y a eu vraiment un débat d'idées, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Rémi Villemur, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Et Frédéric Lapointe, qui est en studio. Vous, Frédéric Lapointe, vous êtes président du Mouvement national des Québécois. Rémi Villemur, doctorant en sociologie, détenteur d'une maîtrise en histoire. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Frédéric Lapointe, de cette semaine? On parlera du budget fédéral dans un instant, si vous voulez. Peut-être juste une seconde là, sur l'épopée, la formidable épopée de Paul Saint-Pierre Plamondon et de ses propos. Comme ça, je lance la question totalement ouverte. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, je dis pour nos auditeurs là, que Paul Saint-Pierre Plamondon, d'abord au Conseil national du Parti québécois, auquel vous étiez présent,
exact.
A fait un discours qui a retenu l'attention, qui rappelait... là, c'est moi qui parle, mais grosso modo, l'idée était de rappeler que le Canada est un continuum, une histoire longue, plutôt hostile à l'endroit des francophones et des Québécois qui cherchent l'émancipation nationale, disons ça comme ça. Puis il en a remis dans les médias par la suite, lorsqu'il interrogé là-dessus. Il a été plus explicite encore sur les déportations, les exécutions, et ce qui a fait dire au quotidien Le Devoir que Paul Saint-Pierre Plamondon traçait un lien presque direct entre Justin Trudeau et de tels événements. C'était peut-être un titre un peu... les titres de journaux, hein, des fois.
Parfois.
Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Sur la forme, d'abord, Paul Saint-Pierre Plamondon lisait partiellement son texte. Alors, entendons-nous...
Au Conseil national.
Donc, entendons-nous, c'est pas une parenthèse ouverte, un glissement de pensée ou... Suite à une question de journaliste. Donc, c'est prémédité, c'est calculé et fondamentalement, ça a marché.
On a parlé... Pour faire parler de soi.
Pour faire parler de soi, de la cause, de l'histoire, ça a magnifiquement bien marché.
Alors, de la cause aussi.
Et de la cause aussi. Marcel Tessier, je crois, un historien bien connu, disait souvent que si les Québécois connaissaient mieux leur histoire, l'indépendance serait déjà fait. Donc, la stratégie que de ramener la discussion sur les contentieux historiques ou sur les persécutions, l'angle... dans le passé, à tout le moins, sur l'actualité et le Canada actuel, on pourra dire que le débat reste ouvert.
Saint-Pierre Plamondon tire un fil là, jusqu'à l'histoire présente en passant par le rapatriement unilatéral de la Constitution, le scandale des commandites plus récemment.
Le passé est plus indiscutable que le présent.
Combat contre la loi 101.
À cet égard. Bon. Et donc, c'est payant. Je crois que c'est une bonne idée, c'est une bonne stratégie pour le Parti québécois. Cela dit, il est vrai que cela insécurise. Manifestement, ça insécurise le Parti libéral du Canada, qui aurait très bien plu, plutôt que... Et de même qu'Alexandre Boulris, député du NPD de Rosemont.
Ah ben, vous pouvez nommer Québec solidaire aussi.
Je ne les ai pas entendus.
Non.
Sur ce point, mais...
Vous avez Louis Sélectif.
Peut-être. Peut-être que je choisis de tendre l'oreille à certains endroits plus qu'à d'autres. Mais donc, ils ont, plutôt que de dire « le Canada a changé », ils auraient très bien pu tenir cette ligne-là, dire « oui, il est vrai que le Canada s'est construit sur un projet de marginalisation, voire d'assimilation, de disparition des natifs, qui étaient les Canadiens, puis les Canadiens français, etc., etc. » Mais maintenant, le Canada, c'est autre chose. Ils auraient très bien pu tenir cette ligne-là qui leur aurait été très favorable, dire « nous sommes les bons gars maintenant ». Bon, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit « ben là, c'est du passé, c'est des évocations violentes. »
Ça, bon, c'est M. Rodriguez.
M. Rodriguez. Oui. Donc, autrement dit, c'est tabou. C'est un tabou.
C'est
il
ne
faut pas
chicanes.
Parler de tout ça. Ouais. C'est des vieilles chicanes. Mais au fond, pourquoi est-ce que M. Rodriguez parle du terme « violent » C'est parce que le bourreau ne veut pas que la victime de l'histoire réapparaisse. Parce que la victime de l'histoire est, oui, une menace. pour le bourreau. Pas simplement pour sa bonne conscience, mais parce que légitimement, et là je vous amène ailleurs, légitimement, invoquer ces sujets-là, c'est, dans une certaine mesure, inviter à une forme de répartie, une forme de revanche de l'histoire. Donc, vous voyez que le bourreau n'a pas la conscience tranquille quand il dit aux victimes de se taire.
Rémi Villemur, il n'y a pas que des fédéralistes très officiels qui ont réagi avec véhémence aux propos de Paul Saint-Pierre Plamondon, en tout cas qui l'ont critiqué durement en disant c'est voilà, c'est on fait pas c'est du passé, c'est des vieilles chicanes. Il y a aussi les gens apparemment souverainistes de Québec solidaire qui ont dit ben ça c'est du ressentiment, puis le ressentiment c'est pas très fécond, il faut avoir un discours d'espoir, d'avenir, parler des choses importantes, et là on devine que c'est l'environnement, l'altermondialisme, le féminisme et ainsi de suite pour Québec solidaire en tout cas. Et d'autres ont dit ben c'est une erreur stratégique pour Paul Saint-Pierre Plamondon, il prête flanc à beaucoup de critiques. Alors il n'y a pas que les fédéralistes qui ont réagi, de quoi toutes ces réactions assez négatives sont-elles le nom, d'après vous?
Bien, effectivement, c'est pas... toutes sortes de gens ont réagi, mais il y a une chose qui unit chacune de ces réactions-là, à mon avis, et c'est un certain sentiment d'intolérance par rapport à un discours.
Il fallait pas parler de ça.
Bien, c'est parce qu'on fera pas semblant que Paul Saint-Pierre Plamondon en parle souvent, là. Moi, c'est ça qui m'a fait capoter cette semaine, c'est que je lisais bon, tous les chroniqueurs de la presse, la job de bras là, d'Auger, d'Isabelle Haché. On avait l'impression que c'était
Philippe
redondant.
Mercure aussi, hein? On était rendu à Jean-Marie Le Pen.
Oui, mais on avait l'impression que c'était ça faisait longtemps que Paul Saint-Pierre Plamondon en parlait et que là, il était allé un peu trop loin puis que là, il fallait enfin dire que ça va faire. Mais non, mais c'est peut-être la première fois qu'il tenait un discours pareil. Donc, moi, je m'excuse, mais on peut tenir ce discours-là. Moi, c'était moi qui s'occupais de la stratégie au PQ, je le tiendrais un peu plus souvent. Donc, ça vous dit même à quel point je pense qu'il est relativement raisonnable, M. Plamondon.
Alors,
dans
de
cette
quel
façon.
Discours on parle? On parle du discours du risque de disparition, du malaise.
De discuter d'histoire, de discuter du destin du Québec dans le Canada en fonction de ce qui s'est produit. Là, cette fin de semaine, on s'est réveillé un petit peu trop tard pour lire ça, mais il y a un gros dossier dans le Journal de Montréal sur la situation du français au Canada. Et je sais que ce dossier-là, le Journal de Montréal le prépare depuis plus d'un mois. Donc, c'est pas, on n'a pas essayé de sauver Paul Saint-Pierre Plamondon parce que cette semaine, il y a eu une mauvaise semaine au Journal de Montréal. Là, les théories du complot, ça ne fonctionnera pas. Ce dossier-là, ça fait un mois qu'il est préparé et j'invite les gens à aller le consulter. Moi, j'ai un petit peu, je l'ai survolé et on apprend finalement ce qu'il nous révélait trois jours avant, c'est-à-dire que c'est ça qui attend le Québec si on ne se donne pas un pays un jour. Et ça, c'est...
Alors, la chute, évidemment, du poids là, des francophones
tout
au Canada,
fait.
Notamment.
Et l'assimilation à l'anglais.
Divisé par deux depuis quoi, une génération, je crois?
Oui, exactement. Ouais. Puis le taux d'assimilation à l'anglais est incroyable. Je pense qu'en Saskatchewan, on parle de 75% chez les francescois, exactement.
Ouais, donc, à ce rythme-là, ils vont être rendus en dessous de zéro dans pas grand temps. Hein?
Donc, moi, j'invite les gens à porter attention au discours des péquistes. C'est un discours qui est tourné vers l'avenir. C'est un discours, on parle d'environnement, on parle de social-démocratie, on parle de justice sociale, on parle de réinventer le monde d'une certaine façon. Et là, on parle d'histoire, et là, on nous fait croire qu'on est allé trop loin. Attendez une minute, là. Il faut essayer de parler à tout le monde. Moi, j'ai l'impression qu'au PQ, on a voulu faire un test, d'une certaine façon. Hein? On est allé en Conseil national, on s'est dit, on va tenir des propos... sont un petit peu conservateurs, un petit peu identitaires. On sait déjà que les gens conservateurs et identitaires, disons, sont déjà revenus au PQ. Là, okay? Ils étaient déjà au PQ, ils sont jamais allés à la CAQ, ils sont restés au PQ. Mais on veut essayer de voir comment les gens réagissent.
Une mouvance conservatrice
peut-être aussi.
Nationaliste provinciale qui est allée à la CAQ.
J'ai pas l'impression qu'on a voulu aller chercher des voix. Je pense qu'on a voulu faire un test. Parce que de toute façon, il va falloir trouver... une voix, il va falloir trouver un discours, disons, central, fédérateur en vue du référendum ou en vue même de l'élection. Et là, on fait des tests. Moi, je pense que c'était un test. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, je pense que le test est réussi. Parce que c'est pas parce que à la presse, on nous dit qu'on est allé trop loin, ou dans le National Post, ou dans la Gazette, parce que c'est ceux-là qu'on a vu les réactions les plus virulentes. C'est pas parce que dans ces journaux-là, on nous dit qu'on est allé trop loin au PQ, qu'on est allé trop loin. C'était, disons, pour dire simplement, on s'y attendait quand même. Mais dans la population, c'est sûr que c'est un sondage qui va nous le dire, qui va nous le révéler dans quelques semaines. Mais moi, je pense que les gens sont tout à fait à l'aise d'entendre parler de ça. Les gens sont conscients de ce qui se passe au Canada.
Mon petit doigt me dit qu'il y a des sondages qui vont se faire bientôt, Frédéric Lapointe. On pourrait être en accord avec... par exemple, avec tout ce que vient de dire Rémi Villemur, et néanmoins penser qu'il y aura un prix, justement, dans les prochains sondages. Il y a des gens qui auront eu peur, pour toutes sortes de raisons, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, qui n'aiment pas qu'on parle de ce passé mm-hmm. difficile et de ce présent qui n'est peut-être pas... le confort et l'indifférence de Denis Arcand mm-hmm. peut-être vient jouer ici, j'en sais rien. Pensez-vous qu'il y aura un prix ou est-ce qu'on est dans un cas de furie dans le commentariat, dans une certaine classe politique qui ne sera pas finalement, qui ne se répercutera pas dans l'opinion publique plus large. Ça arrive, ça aussi, beaucoup, surtout à notre époque, hein, qu'on pense à Donald Trump, oui. qui est le meilleur exemple de ça. Le commentariat ne finit jamais d'être en crise d'apoplexie, puis M. Trump continue d'être populaire et d'aspirer à être président des États-Unis à l'heure actuelle.
Exact.
Tort ou à raison.
En occupant l'espace. Je ne sais pas.
Je ne veux pas faire le parallèle entre Paul Saint-Pierre Plamondon et Donald Trump, sinon sur le caractère incorrect. Ça a été vu comme incorrect, ce mm-hmm. qu'il a dit cette mm-hmm. semaine.
Mm-hmm. Je ne sais pas s'il va y avoir un prix à payer dans les sondages. Je pense que c'est possible. On le verra. Le prix à payer qui m'inquiète, ce n'est pas celui-là. Hein? Moi, je ne suis pas dans le propos partisan d'aucune façon. Mais là où il y a un prix à payer, c'est en... Lorsque la majorité au Québec, et elle existe, hein, elle a une filiation historique qui remonte à la fondation de la Nouvelle-France. Lorsque la majorité étale son contentieux historique et ses griefs, ben, il y a des gens au Québec qui ont un frisson dans le dos. C'est en particulier les anglophones qui se disent à chaque fois que la majorité est insécure, est-ce que je vais recevoir, c'est une image, là, mais un coup de baguette derrière la tête. C'est les minorités ethnoculturelles, qu'elles soient francophones ou allophones, qui se disent, voilà, la majorité commence à être anxieuse, est-ce que je vais être pointé du doigt comme faisant partie du problème? Alors ça aussi existe. Alors, en politique, il y a deux grands moteurs.
Ça pourrait braquer des gens?
Que ça les braque ou pas, il y a un sentiment négatif qui est associé à ça. C'est pas toujours une bonne expérience lorsqu'ils entendent ce genre de discours, pour les raisons que j'explique.
On s'en doute bien.
Mais moi, je leur explique, hein, je leur parle à l'occasion, qu'il y a effectivement deux moteurs principaux émotifs de l'action politique, et c'est la peur et l'espoir. Alors, un jour, le Parti québécois joue davantage sur la corde de la peur, et les 9 jours suivants, ils vont probablement jouer davantage sur la corde de l'espoir. Québec solidaire qui disent jouer davantage sur la corde de l'espoir, ben un jour, ils vont dire qu'on risque des déportations massives. Donc là, ils jouent sur la peur. Donc, c'est dans le coffre à outils. Dans le dossier de l'immigration. Donc, c'est dans le coffre à outils là, de toutes les formations politiques.
Rémi Villemur, moi, je pensais que, naïvement peut-être, que la question existentielle, d'abord de la survie puis de l'épanouissement d'une culture et d'une identité particulière au Québec, qui origine bien sûr dans le fait canadien-français, hein, ici. Je pensais que c'était ça qui était au cœur du projet, au fondement du projet indépendantiste. Je réalise qu'on en parle très peu, somme toute, voire presque jamais. Est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'il y a un tabou là-dessus? Si oui... Pourquoi? Comment se fait-il que ce soit si mal vu? Et là, je pense à Québec solidaire qui parle du ressentiment, le NPD qui dit que c'est des vieilles chicanes. Ce sont deux partis qui ne cessent par ailleurs de nous inviter à entendre les colères et les ressentiments de toutes les minorités possibles et imaginables, souvent qui réfèrent à un passé lointain aussi, quand ce n'est pas carrément un passé fictif ou un passé qui n'a pas eu lieu au Québec aussi. Hein? Mmh. Je pense à la question de l'esclavagisme et tout ça. Bon, là, on va me dire qu'il y en a eu un peu ici, mais évidemment...
4 000 en 200 ans.
Voilà, vous avez le chiffre. Alors, comment se fait-il que quand il est question des Canadiens français du Québec, là, pour le dire... comme ça, sans faire un Elvis Gratton de moi-même. Comment se fait-il que là, on c'est interdit? Est-ce qu'il y a un interdit?
Ben,
est-ce que je me suis trompé? Puis non. L'indépendance, au fond, on fait ça pour améliorer les aqueducs, la voirie,
Ben, vous faites semblant de ne pas le savoir. La faune et la flore. Là, vous savez que,
ben oui, je vous pose la question pour que vous me répondiez. C'est à vous de répondre.
Oui, oui, c'est ça. Bon, ben écoutez, il s'est passé quelque chose le soir du 30 octobre 1995. Il y a des propos qui ont été tenus et ça a eu une influence qu'on ressent encore aujourd'hui. Moi, je suis assez d'accord
avec... Vous pensez avec... que c'est le... Ben, qu'on est dans le film du vote ethnique?
Ben absolument, absolument. Les paroles de Parizeau ont fait en sorte, il ne le savait pas ce soir-là, évidemment, parce que c'était un homme responsable, mais il ne savait pas que... Encore aujourd'hui, on en ressentirait les effets. Il est très difficile de parler de « nous », de « N-O-U-S », sans apparaître un peu suspect.
Mais moi, je vais plus loin. Il me semble que c'est très difficile de dire que, encore aujourd'hui, le Canada est un régime hostile à l'épanouissement national des francophones du Québec. Il y a une hostilité. Là. On peut citer un paquet de mesures et de comportements politiques, même dans l'actualité très récente. Là.
Oui, puis on en a déjà parlé ici. Les souverainistes vont avoir un exercice de conscience à effectuer quand Justin Trudeau va quitter le pouvoir, parce qu'on va avoir manqué une très, très bonne occasion de faire l'indépendance. Au moins, on se sera donné un vent, une poussée, et qui, espérons-le, va se poursuivre sous le règne de M. Poilievre, parce qu'on avait toutes les raisons de discuter de ces choses-là sous le règne de Justin Trudeau. Et vous venez de le dire, on le faisait pas, on n'en parlait pas, on avait l'impression d'être une majorité, alors qu'on n'est pas une majorité, on est une minorité en Amérique. Le discours identitaire, appelons-le comme ça, là, c'est le discours sur lequel doivent fonder les souverainistes leur stratégie en vue du référendum. Rappelons-le qu'en 95, 60%
des... Vous allez en sens inverse.
Tout à fait.
Vous appelez à des semaines comme celle-ci à répétition.
Non, pas en ce moment, c'est pas le moment. Ouais. Mais quand va venir le temps de faire le référendum, il va falloir discuter de toutes sortes de choses. Mais écoutez, en 95, 60% des francophones ont voté oui, ce ne fut pas suffisant. Donc, en 2027-2028, c'est pas 60% qu'il va falloir aller chercher, c'est 75%. 70-75%. Et ces gens-là ne voteront pas oui si vous leur parlez d'environnement, si vous leur parlez de voirie, si vous leur parlez de justice sociale. Ils vont voter oui si vous leur faites, non pas croire, si vous leur rappelez c'est quoi le but de la souveraineté du Québec. C'est de survivre en Amérique. Ça, c'est la seule façon d'aller chercher 70 à 75 %
Alors là, vous comptez sur leur instinct de survie. Il faut espérer qu'ils aient envie de survivre et non pas de s'angliciser.
Oui, et ce sera un plébiscite sur la volonté des Québécois de survivre. Mais il faut aller chercher l'âme, il faut aller chercher l'instinct chez les gens. C'est comme ça qu'on fait vibrer les gens. Donc moi, ce discours-là, je vous le dis, il ne m'a pas choqué. Je pense même qu'il va falloir en réentendre parler. Et je pense qu'au PQ, on le sait. Soit dit en passant. On le sait, on n'est pas ébranlé par ce qui vient de se produire. Et autre chose aussi, n'ayons pas peur de discuter de ces choses-là, parce que même si on reste positif, assumons que ce discours-là, c'est un discours négatif du ressentiment, là, on concède ça, ce qui est totalement faux, là, mais pour les fins de la démonstration, même un discours positif va se buter à un discours de peur de la part des fédéralistes. Ne pensez pas qu'ils vont s'empêcher de le faire. Ils vont juste trouver une autre façon de le faire. Eux autres, ils sont fédéralistes. Ils veulent pas que ça fonctionne, la souveraineté du Québec. Donc, même si vous leur parlez d'environnement, que Paul Saint-Pierre-Plamondon met sa face sur des boîtes à biscuits, ils vont trouver une façon de le diaboliser. Donc, soyons sincères et soyons francs.
C'est-à-dire que le vrai sujet va ressortir. On va dire, non, mais c'est une question existentielle d'abord, puis il faut être Canadien plutôt québécois. Effectivement, si c'est pas les souverainistes qui vont sur la question d'identité.
Ils ont de l'imagination.
Frédéric Lapointe, je vous soumets une hypothèse. Est-ce que cette semaine a été une sorte de répétition ou de grand exercice dans lequel, et là, je vais parler seulement de ceux qu'on appelle fédéralistes, là, qui ont quand même réagi très fort eux aussi. Il y a un commentateur, Luc Lavoie, à Cube Radio, qui a fait un parallèle entre Paul Saint-Pierre-Plamondon et Slobodan Milosevic, c'est dire dans quelle stratosphère on est rendu là, dans les parallèles très, très forts. Est-ce qu'on n'est pas en train de dire aux péquistes, au fond, bien, si vous vous avisez de parler des véritables raisons, de donner une véritable assise au projet indépendantiste, vous allez nous trouver sur votre chemin pour vous calomnier, pour aller dans la pire démagogie qui soit. Est-ce que les fédéralistes, au fond, ne préfèrent pas que l'indépendance, ça soit un peu comme chez Québec solidaire, c'est-à-dire un machin un peu désincarné, un choix mais à côté de ce choix-là, il y a aussi le choix du fédéralisme qui le vaut tout autant. C'est deux choix positifs, au fond, avec un peu plus de risque du côté de l'indépendance. Vous voyez, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt, au fond, à ce qu'on ne parle pas des vraies raisons?
Oui, ben, ils ont mauvaise conscience. Hein. Je pense que de rappeler ces faits historiques les met en contradiction avec les compromis qui peuvent se justifier, hein, par ailleurs, les compromis qui ont jalonné leur vie et leur participation au système. Je pense qu'ils auraient intérêt. Et je me trouve un peu étrange de donner des conseils aux fédéralistes à cette antenne, là, je le dis soit dit en passant.
En tout cas, ils auraient des raisons de se méfier de vos conseils.
J'essaie d'être un conseiller le plus objectif possible. On se souvient d'un certain Claude Garcia durant le référendum de 1995, quand les sondages n'allaient pas bien pour
c'était
le oui.
C'était le monsieur de la banque quoi
je
déjà?
Je pense que c'était la Sun Life. Je pense qu'il présidait la Sun Life à l'époque et qui disait il ne faut pas juste gagner le référendum contre les souverainistes, il faut les écraser. Alors, ce genre d'abus de langage, puis Luc Lavoie est capable d'avoir ce genre d'abus de langage, en fait, ben ils tirent dans leur propre but. Et c'est absolument pas accepté et acceptable dans la discussion publique. C'est une chose qui est chère.
Non, vous avez raison. Ça va trop loin, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Derrière ces écarts-là, il y a ceux qui disent, mais franchement, là... Il ne faut pas prôner le repli sur soi, revenir aux vieilles chicanes, aux ressentiments. Voilà, sans aller plus loin que ça, c'est un discours qui peut coller ça quand même et qui dit aux souverainistes, essayez donc pas de parler des vraies affaires puis restez dans la barbe à papa.
C'est ça, il le tente, mais je vous soumets que ça ne fonctionnera pas. C'est un vieux réflexe fédéraliste qui fonctionnait auprès d'une clientèle qui n'est plus parmi nous. Hein, on parle des Canadiens français qui étaient, pour le meilleur et pour le pire, davantage craintifs, respectueux de l'autorité, conformistes, pauvres, donc plus intéressés à ruser dans son propre intérêt que de chercher les grandes révoltes. Donc, ça existe encore dans l'électorat, là, mais c'était un segment d'électorat beaucoup plus important auparavant. Là, on a des gens là, qui sont pratiquement prêts à s'immoler là, pour qu'on réforme là, une féminisation dans un texte gouvernemental. On n'est pas dans l'appel à la soumission là, quand on regarde la culture politique à l'heure actuelle. Au contraire, de référer comme...
Non, c'est vrai. On est dans un monde très polarisé.
Très polarisé. Puis de référer à des...
Beaucoup de hargne en politique.
Oui, c'est ça. Puis de référer à des contentieux passés, bien, en fait, c'est plutôt consonant avec le bruit ambiant hein, où on cherche à se valoriser en tant que victime. Puis les gens nous doivent quelque chose, non pas parce qu'on appartient à une société commune où on a des références communes. Non, les gens nous doivent des choses parce qu'on est des victimes. Ça, c'est pas mal le discours dominant. Donc, qu'on nous dise qu'il ne faut pas avoir un discours de victime, ben moi, je leur souhaite bonne chance. Je n'ai pas l'impression là, qu'ils sont à la bonne époque.
Dans l'air du temps avec ça. En terminant sur ce sujet-là, Rémi Villemur, les jeunes. Frédéric Lapointe nous dit ceux qui étaient susceptibles d'avoir peur quand on leur disait qu'ils allaient perdre leur rocheuse ne sont plus parmi nous. Il y a une nouvelle génération, elle, qui est, contrairement à autrefois, la moins souverainiste de toutes. Hein? Elle est même très minoritairement intéressée à ce projet-là à l'heure actuelle. Est-ce que c'est pas à eux, peut-être, qu'on fait peur? Ça va prendre chez eux. Est-ce que ça va prendre chez eux ceux qui disent que ben, c'est le ressentiment, c'est le repli sur soi, c'est des vieilles affaires, c'est conservateur? C'était ça l'accusation de Gabriel Nadeau-Dubois. Hein? Outre le ressentiment, il disait c'est le chef le plus conservateur que le Parti québécois ait jamais eu. Il fallait entendre ça comme une sorte d'insulte, en fait, ou en tout cas comme quelque chose de pas très positif au minimum. Ouais. Ça va résonner, ça, chez une partie de la jeunesse?
Ça n'existe pas, la jeunesse. D'accord? Je veux dire, il y a les jeunes de Montréal-Nord, c'est pas les mêmes jeunes qu'à Rimouski, c'est pas les mêmes jeunes qu'à Limoilou. Vous comprenez un peu le principe? Ouais. C'est pas les mêmes. Effectivement, les sondages, par contre, nous démontrent qu'en moyenne, ils sont peu favorables au projet souverainiste. Par contre, moi, j'ai étudié au bac en histoire à l'UQAM et le bac en histoire, c'était le bac avec le plus d'étudiants au Québec. Donc, il y a des jeunes qui sont intéressés par l'histoire. Il y a beaucoup de jeunes au Conseil national des jeunes du Parti québécois. Je pense que Frédéric Lapointe aurait des chiffres peut-être à nous soumettre, mais je pense que c'est le conseil de jeunesse le plus peuplé, quoi. C'est le... Oui, bon. Alors, il y a des jeunes au PQ, il y a des jeunes qui sont intéressés par ce discours-là, et même des jeunes issus de l'immigration. Je les vois, les photos, je les vois, les vidéos.
Ça, on peut penser qu'eux, sont, paradoxalement, seraient peut-être les plus réceptifs parce qu'ils sont habitués, ils viennent de pays, si on n'est pas né ici.
C'est complexe d'analyser ça.
Ils viennent d'un pays où ça ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis, là, dans le discours politique.
Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire ces choses-là aux jeunes. Regardez, j'en suis un. Et moi, ça me fait triper, ce discours-là. D'accord, j'ai 30 ans, donc je suis l'exemple contraire à ça. Est-ce que je représente la majorité? Non, effectivement, non. Mais je pense pas que la jeunesse doive être approchée d'une certaine façon. Les jeunes n'ont pas les mêmes projets. Il faut croire en un projet. Et quand on y croit, les gens y croient à des gens qui y croient. C'est aussi simple que ça. René Lévesque, c'était ça son succès. Les gens disaient « Wow, on a envie de le suivre. Il y croit. On n'est peut-être pas d'accord avec tout, mais on a l'impression qu'on est en sécurité avec lui. » Et si Paul Saint-Pierre Plamondon inspire ça, ben, il va réussir à attirer n'importe qui, des jeunes, des plus vieux. Et oublions pas une chose. En 80 et en 95, le projet de la souveraineté du Québec, c'était le projet des baby-boomers. Aujourd'hui, les baby-boomers, ça leur tente de gagner. Donc ces gens-là, ça, il fait bien Frédéric Lapointe de rappeler qu'en 80-95, les vieux là, que Jean Chrétien allait voir dans les maisons, ils sont morts, là, okay? Ils sont partis. Mais aujourd'hui, les baby boomers, ils ont 80 ans et ils ont perdu deux fois et ça va leur tenter de voter. Donc il y a une manière de stratégique de tout répondre à ça.
Est-ce que, Frédéric Lapointe, l'erreur au fond de Paul Saint-Pierre Plamondon, s'il y en a une, là, c'est bien possible, n'est-elle pas ailleurs? C'est-à-dire que tout le monde s'est énervé avec le propos sur le passé du Canada et ce lien fait avec le présent, mais est-ce que ce n'était pas plutôt ce qui est susceptible, en tout cas, d'être peu payant pour, dans les intentions de vote pour Paul Saint-Pierre Plamondon? Est-ce que ce n'est pas plutôt cette façon de tenir pour acquis la victoire et d'annoncer déjà le référendum et d'avoir un peu arrogant là-dessus? Ça a été moins relevé, ça, parce que le discours sur le passé, le Canada hostile au Québec et la peur de disparaître a rapidement pris le dessus. Mais il y avait ça aussi là-dedans.
Oui, mais c'est absolument pas une erreur. Évidemment que les
Pourquoi?
Chroniqueurs...
Parce qu'il faut montrer que c'est faut installer dans la tête des gens que c'est réel, c'est possible.
Mais par transparence, les chroniqueurs, cette semaine, ont relativisé donc cet engagement en disant « Ah, il peut changer d'idée, hein, ils n'ont pas gagné les élections. » C'est tout vrai. Mais je vous soumets qu'auparavant, alors que Paul Saint-Pierre Plamondon était tout aussi clair, il ne relayait pas sa position, il ne la commentait pas, il ne la relativisait pas. Et donc, sa position, en fait, percole dans l'environnement médiatique. Non, c'est un gain, c'est pas une perte.
Avant, il disait, moi, je m'engage à faire un référendum si je prends le pouvoir. Il y en aura un, je vous le dis, c'est réglé, passons autre chose. Maintenant, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, nous serons au pouvoir et il y aura un référendum. Ça, c'est pas pareil.
Oui, mais c'est les données qui sont probantes, j'oserais dire. Puis, il a même dit, d'ici 10 ans...
Mais pour le moment.
En fait, moi, ce que j'ai noté surtout, c'est qu'il a dit, d'ici 10 ans.
D'ici la fin de la décennie.
Oui, c'est ça, d'ici la fin de la décennie.
Ah, la fin de la décennie, OK. C'est mieux, parce que je trouvais que 10 ans, ça ouvrait une porte, là. Moi, je l'aurais remarqué,
mais... C'était plus péquiste traditionnel.
Voilà, donc d'ici la fin de la décennie, oui, ça va. Mais en fait, s'il y a si j'ai un bémol à la nature du discours, c'est son caractère... comment je dirais, un peu défaitiste. Je n'ai pas la posture et je n'ai pas la position, je n'ai pas la conviction que le français est en danger existentiel au Québec ou que ce qu'on appelle les Canadiens français, on n'est pas en danger existentiel au Québec. On sera là dans 100 ans, on sera là dans 200 ans. Et le message que j'ai à tous ceux qui pensent qu'on va disparaître, c'est vous allez être pris avec nous longtemps, tout le temps, vous êtes mieux de vous y faire. Et je pense que, par ailleurs, ce discours-là a plus de chances de rallier des gens à notre cause que de dire aux gens on va jeter les dés dans 6 ans, puis si on ne roule pas un double 6, ben on va disparaître. Ça, c'est une invitation aux gens à ne pas se joindre à notre équipe.
Je soupçonne Rémi Villemur de ne pas être d'accord avec ça. Alors, est-ce qu'on dit aux gens il faut faire attention parce qu'on peut disparaître, Rémi Villemur, ce qui peut les amener à se mobiliser en même temps, ou est-ce qu'on leur dit au contraire on se tient debout, on est fort, il n'y a pas de problème, ça n'arrivera pas. Puis là, y a-t-il un contre-coup possible à ça? C'est une forme de démobilisation.
Que je sois bien compris, là, moi, c'est même pas une question de stratégie. Moi, je ne crois pas qu'on soit en sécurité dans le Canada. Donc, je ne suis même pas en train de vous dire, il faut dire aux gens qu'on est en danger pour gagner des voix. Là. Je ne crois pas qu'on est en sécurité.
Pour vous, c'est la réalité, donc il faut la
dire. C'est tout à fait la réalité. De toute façon, si vous dites, par contre, si là, on revient à une discussion stratégique, si vous dites aux gens, on est fort, on sera là dans 200 ans, ben là, soudainement, ils n'ont plus envie de voter oui. Là. Ou en tout cas, ils ont moins envie de le faire, parce que oui, c'est un discours de force, mais qu'est-ce que ça donne de faire la souveraineté si, effectivement, dans 200 ans, dans le contexte actuel, avec les paramètres qui sont ceux qu'on connaît, ben on est correct. Ben,
bon, je vais trancher en disant qu'il faut peut-être un judicieux mélange de ces deux perspectives.
Mais juste ajouter un truc là, sur l'étude de l'OQLF, parce qu'on avait eu une discussion
Alors, cette étude qui portait sur un seul indicateur...
Le français langue d'usage
public. Un indicateur assez vague, en général. Celui qui dit que... voilà. La langue qu'on parle quand on sort de la maison, qu'on
va à l'épicerie. L'OQLF a entendu les critiques, là. Ils ont sûrement entendu l'émission même, puis ils ont accordé une entrevue à Fanny Arcand à la presse et ils ont révélé qu'effectivement les résultats ne correspondaient pas à la situation actuelle à Montréal. Ils ont dit, depuis qu'on a fait l'étude, depuis qu'on a ramassé ces données-là, la situation a changé. Donc là, les gens qui disent que l'étude de l'OQLF, elle est pertinente, elle était pertinente il y a peut-être un an ou deux ans, mais elle ne l'est plus.
Ils continuent de le dire.
De leur propre aveu.
Oui. Reste qu'on pourra toujours penser qu'il pourrait y avoir une forme de stabilité provisoire du français dans l'espace public, même si derrière, ça s'effondre un peu.
Le cajun.
C'est une autre question. Oui, ben ouais, voilà, savoir qu'est-ce que c'est exactement, mais on ne fera pas la discussion de la dernière émission. Frédéric Lapointe, le budget fédéral qui nous avait été annoncé par morceaux pendant plusieurs jours avant
un intéressant feuillage
officiel, oui. Feuillage avec la foule qui siffle, on demandait presque un rappel. Alors finalement...
Les gens jettent de l'argent sur la scène, hein, on le voit. Ils vont être un peu forcés de le faire.
La montagne, oui, c'est vrai. Notamment si vous vendez votre chalet.
Cette danse-là doit se payer.
Oui, c'est ça. Mais justement... Est-ce que, parlons-en de cette mesure qui fait beaucoup jaser sur, on taxe davantage le gain en capital, pour les résidences secondaires notamment, sur la vente d'actions, j'ai bien compris.
Oui, c'est le gain de capital. C'est le gain de capital
Alors,
en général.
Alors, là, il y a le discours, il y a la mise en marché politique. Hein? On fait payer les riches. Les riches, ça, c'est pas une notion scientifique. C'est toujours un peu difficile de savoir qui sont les riches, qui est la classe moyenne, qui sont les très riches. Est-ce que c'est ça qui arrive, Frédéric Lapointe? Est-ce qu'on va faire payer... Et puis là, Québec a emboîté le pas, ce qui a fait rager certaines personnes.
Très bonne idée.
Vous trouvez que c'est bon? Est-ce qu'on fait payer les riches ou est-ce qu'on fait peut-être davantage payer des gens qui sont dans la classe plus moyenne, qui ont acheté un chalet il y a plusieurs années puis qui comptaient là-dessus pour la retraite, mais qui sont pas forcément millionnaires ou qui ne roulent pas sur l'or, comme on dit, pour autant. Est-ce que vous pensez pas qu'on passe un peu, encore une fois, la classe moyenne au rabot?
Non.
Non? Alors expliquez-nous.
Non. Moi, d'entrée de jeu, je suis favorable à un État bien financé. Et je suis assez cohérent pour dire que je suis favorable aux hausses d'impôts lorsqu'elles se présentent. Hein, puis je suis contre les baisses d'impôts. Lorsqu'elles se présentent, je ne changerai pas d'opinion aujourd'hui à l'antenne. Mais spécifiquement sur le gain de capital, il faut savoir que le gain de capital jusqu'à Paul Martin, si mon souvenir est bon, était imposé comme n'importe quel revenu. Hein, moi, je gagne, je ne sais pas moi, on va faire un chiffron, 100 000 $ à l'Université de Montréal, je suis imposé sur le 100 000 $ de revenus, moins les déductions et patati patata, tout ça. Et si j'ai du gain de capital... Avant Paul Martin, ça s'ajoute à mon revenu, puis je suis imposé comme sur n'importe quoi. Mm-hmm. Paul Martin a introduit une exemption de 50 % du gain de capital de l'impôt habituel. Alors, c'est cette exemption qui passe de 50 % à 33. Donc, oui, les gens vont être un peu plus imposés sur leur gain de capital.
À 66 %.
À 66 %. Ben, en fait, ils ne perdent pas 66 %, mais 66 % du gain est imposé à... Puis là, ça dépend de votre taux marginal.
Ta tranche à toi.
À 15, 30, je ne sais pas. Je sais pas. Donc, oui, c'est une augmentation, mais on est encore dans un régime qui date de Paul Martin où le gain de capital est moins imposé que le gain de travail. Et c'est pas banal. Moi, je vous soumets que si on veut encourager... le travail, hein, que les gens fassent des heures supplémentaires, on est en pénurie de main-d'œuvre, ben c'est un choix économique qui a du sens de taxer le capital plutôt que de taxer le travail.
Voilà. Il avait fait ça pour des questions de productivité, d'investissement, non, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on ne va pas perdre au change de ce côté-là?
Je pense pas. Je pense que le problème du Canada en matière de gains de productivité, c'est davantage une stratégie plus macro que l'enjeu fiscal. On a une économie qui est maintenue en situation de plein d'emplois et de plein d'entreprises parce qu'on mise davantage sur la main-d'œuvre peu cher, hein, l'immigration, que de miser sur soit des gains de productivité, soit sur, parce que ça arrive, c'est aussi ça l'économie, des fermetures d'entreprises et de secteurs remplacés par des secteurs plus productifs. Donc, oui, la fiscalité peut jouer un rôle, là, mais si on veut vraiment là, infléchir la courbe de la productivité au Canada, là, c'est pas avec une petite mesure fiscale de 10 milliards là, qu'on va faire ça. Là.
Non. Alors, néanmoins, vous êtes philosophiquement d'accord avec cette taxation.
Oui, c'est le bon coup de... Il y a deux bons coups du budget fédéral, ça, c'en est un.
Mais
le...
j'allais vous demander, quand on taxe, il faut, autant que possible, ceux qui devront subir cette taxe, c'est mieux s'ils pensent que, par ailleurs, on dépense leur argent correctement. Ce que vous trouvez du côté des dépenses...
Voilà.
Est-ce que c'est vraiment un budget du NPD, comme plusieurs le disent?
Oui, le NPD aurait peut-être dépensé encore plus.
Oui, probablement.
Mais une des forces du budget, c'est quand ils disent qu'on s'est préoccupé des jeunes, il y a quelque chose là. Puis en particulier des étudiants, ils ont...
Ah ben là, vous m'ouvrez une porte. Est-ce que quand on taxe les gains en capital, on n'est pas en train de taxer les vieux, la population plus âgée, justement pour redonner aux plus jeunes? Et donc, est-ce que ce n'est pas une forme de clientélisme?
On taxe les plus vieux maintenant, mais les jeunes vont passer au cash, vous me permettez l'expression, parce qu'ils vont faire des gains de capitaux plus tard. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème d'équité intergénérationnelle avec cette mesure-là. Et par ailleurs, je le rappelle, hein, depuis à peu près 20-25 ans au Canada, on baisse systématiquement, sauf marginalement pour les très riches là, dernièrement avec Trudeau, on baisse systématiquement les taux d'impôt. L'impôt baisse. Les gens s'en souviennent jamais, là, mais l'impôt baisse et au Québec et au Canada, alors qu'on rééquilibre ça par la fin d'une partie de l'exemption du gain de capital. C'est une bonne chose. Donc, les étudiants se font déplafonner leur bourse d'études. Hein, ça faisait 20 ans que les bourses n'avaient pas augmenté. On augmente aussi la possibilité d'accumuler dans un REER en vue d'acquérir une propriété. C'est pas rien, c'est intéressant. Mais les autres mesures où il y a de la dépense, malheureusement, je dois le dire, c'est un miroir aux alouettes. Hein, on promet des dépenses en défense qui vont arriver dans 5 ans. Sur le logement, il y a une série de conditions là, du type faut s'entendre avec un, avec l'autre. Il faut que...
Les
provinces où on donne un rabais sur le taux d'intérêt pour des projets qui, de toute façon, ne vont pas lever parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Donc, le gouvernement fédéral, face à toutes sortes de problématiques, bien, ils se font un peu un budget en mode collection de communiqués de presse. Ils manifestent des intentions. Oui, oui, on vous écoute. Oui, oui, le logement est un problème. Oui, 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 oui. Non, non, ce n'est pas l'immigration, mais oui, oui, nous, on va être la solution. Mais dans le fond, ils ne peuvent rien faire. La chose la plus utile, pas pour leur sondage, mais pour la population, ce serait qu'ils avouent que le gouvernement fédéral ne peut rien faire. T'sais, à part prendre l'armée, hein, puis couper du bois, scier des planches et bâtir des maisons, toutes les mesures qu'ils ont mises dans leur budget, soi-disant pour construire 3,5 millions de logements, c'est de la foutaise. Ça n'arrivera pas. Alors, peut-être qu'ils vont réussir à récolter 2-3 votes de gens qui vont les avoir crus. Mais c'est un miroir aux alouettes, là. C'est de la bouillie pour les chats.
Pendant ce temps-là, Rémi Villemur, tout l'effeuillage qui consistait essentiellement à nous montrer de quelle façon le fédéral comptait investir dans les champs de compétences des provinces et du Québec, ça existe toujours, ça. Et puis Justin Trudeau nous disait, les gens s'en foutent, ils veulent juste avoir des services. Et là, il y a un sondage léger, commandé d'ailleurs par le Parti québécois, qui nous montrait hier que 80 % des Québécois pensent que le fédéral doit respecter les champs de compétences du Québec. Alors là, pensez-vous qu'il y aura un coup politique à payer pour M. Trudeau là-dessus? Parce que là, vraiment, c'est ce qu'on fait. C'est officiel.
Oui, mais Justin Trudeau, c'est terminé, là. Donc, je veux dire, oui. Moi,
on parle un peu dans le vide parce qu'au fond, quoi qu'il fasse,
ben vraiment,
l'usure du pouvoir.
Ah oui, tout à fait. Mais un petit mot sur le budget.
Mais oui, allez-y.
Moi, c'est ça. C'est le fait saillant de 54 milliards l'intérêt sur la dette. C'est l'équivalent de la TPS perçue à chaque année. C'est incroyable. Donc, pour rembourser seulement l'intérêt sur la dette.
Ouais.
Non, mais c'est 54 milliards. C'est, on n'est même pas en train de rembourser la dette, là, c'est l'intérêt sur la dette. Ouais. Donc, vraiment, là, qu'on soit souverainiste ou fédéraliste, Justin Trudeau doit partir. Là. C'est une catastrophe de la façon que ça a été géré depuis 2015. Sur la question des champs de compétences, moi, je l'ai toujours cru que les Québécois étaient préoccupés par ça. Et même pas juste les Québécois, les Albertains, les Ontariens. Les gens croient... Le Canada, c'est ça. En fait. Donc, qu'on soit souverainiste ou fédéraliste, on veut au moins que les compétences soient respectées. Hein. Vous savez, Jean Charest, quand il s'est présenté à la chefferie du Parti conservateur, il a dit « Je veux sauver le Canada », parce que le Canada centralisateur de Justin Trudeau, ce n'est pas le Canada. Il disait « Ce n'est pas le Canada. Moi, je crois en un Canada », disait-il. Parce que là, que je ne sois pas cité là-dessus, je crois en...
On vous laisse aller, vous êtes parti avec les témoins,
Je crois en un Canada, disait-il, où les compétences sont respectées, effectivement. Et ça, on a perdu ça de vue depuis 2015, parce qu'effectivement, on était dans une logique à Ottawa, avec le NPD et le Parti libéral, une logique où les gens, ils veulent que les problèmes soient réglés. Ben non, pas tant que ça, en fait. Les gens, ils pensent en fait aussi qu'il y a une expertise dans les provinces. Des provinces qui gèrent des dossiers, des domaines de compétences et d'activités depuis 1867, alors que le Canada commence à s'en mêler là, le fédéral, j'entends. Ben, c'est pas la même chose, on n'obtient pas les mêmes résultats.
Mais peut-être que Trudeau a raison si le sondeur pose la question aux gens, non pas à savoir s'ils veulent que le fédéral respecte les champs de compétences, mais plutôt si on leur demande, voulez-vous un régime de soins dentaires?
Ah oui, bien là, c'est pas la même question.
On n'aurait peut-être pas le même pourcentage.
Oui, évidemment, c'est pas la même question, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Bon, alors bref.
On est dans l'hypothétique, là, avec un grand H.
Effectivement. Mais donc, et en terminant là-dessus, Rémi Vilmur, vous, ces mesures qui tendent à... Alors, la fameuse taxe sur le gain en capital.
On découvre qu'être riche, c'est pas être si riche que ça, finalement.
Ben, c'est ça la question que je posais un peu au départ. Là. Est-ce qu'on sait qui ça va toucher? Là? Le fédéral dit principalement des corporations, des compagnies, même des spéculateurs, des investisseurs, mais très peu de gens ordinaires. Chaque fois qu'on nous dit ça, c'est pas ça qui arrive, en fait. C'est pas mal toujours la classe moyenne large là, qui
oui,
casque.
Mais ça me semble quand même raisonnable, parce que j'ai vu des tableaux là, avec des scénarios où quelqu'un devait payer, je sais pas, 28 000 au lieu de payer 11 000. Il y avait des gens qui disaient « ça brise mes rêves de retraite ». Je dis « ouais, ben là, t'as fait une coupe d'erreurs ailleurs. Là, hein? Ça n'a peut-être pas rapport avec la mesure de M. Trudeau là, ou de Mme Freeland ». Donc, je pense que la mesure est raisonnable, mais on est quand même encore dans l'idée, là, on a un argument de plus en faveur du fait qu'il n'y a plus de classe moyenne. Il y a des pauvres et il y a des riches. Parce que là, être riche, c'est ça, là. Hein? C'est avoir une propriété et un chalet. Frédéric Lapointe dit que oui, effectivement, c'est
j'ai,
riche.
J'ai une propriété, un chalet. Je me considère
donc
pas
vous
pauvre,
êtes riche.
En effet.
Ouais, non, mais c'est ça, mais,
okay. Et qu'on me taxe, s'il vous plaît.
Non, mais il y a beaucoup de gens. Il y a de vous, oui, c'est ça. Mais non, mais il y a des gens qui sont probablement moins riches que vous, Frédéric Lapointe, qui ont quand même un chalet parce que, bon, le fameux camp ou le chalet acquis ou même dont on a hérité.
Faut juste pas le vendre. En fait.
Oui, ben c'est ça au fond, hein.
Voilà.
C'est la mesure, c'est pour la conservation des chalets.
Et d'avoir des CELI. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Là. Depuis M. Harper, il y a des comptes d'épargne libres d'impôts. J'ai l'air de faire une publicité de conseiller financier pour une banque. Je pense qu'on peut
il
mettre...
Il manque juste une petite musique avec du piano de type voilà. Les lendemains qui chantent. Là.
Alors, je pense qu'on peut mettre jusqu'à 15 000 $ par année dans un compte d'épargne libre d'impôts. Il est libre d'impôts à 100 % sur le gain de capital. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes qui existent, des échappatoires qui sont disponibles pour les riches, les ultra-riches, hein, on ne rentrera pas dans les fiducies et tout ça, mais qui sont disponibles également pour la classe moyenne. Donc, il faut s'organiser pour minimiser notre exposition. Puis ça n'existait pas il y a 40 ans. C'est encore des mécanismes d'échappatoire qui sont, oui, disponibles pour la classe moyenne. Donc, je ne voudrais pas qu'on soit juste en mode de victimaire ici là, en matière de fiscalité.
Bon, il faut vendre ou... En fait, il ne faut pas vendre ou il faut vendre avant le 25 juin, si j'ai bien compris.
Oui, parce que c'est ça. Il faut se dépêcher.
Conseil financier alternatif.
Là, ça, c'est très curieux, d'ailleurs. C'est pas habituel.
Ça prend un moment, effectivement, avant de
oui, non, mais souvent, ce genre de mesure-là, on dit c'est à partir de minuit ce soir. Hein? C'est souvent ça qu'on voit dans le budget. Puis là, tout à coup, ça va déclencher une espèce de course à l'échalote. Hein? On verra bien. Peut-être qu'il y aura des chalets pas chers.
Pas banal, ça. D'habitude, effectivement, on donne pas de préavis. Là.
Ouais. C'est un peu curieux. Je n'ai pas de thèse précise là-dessus. Revenons à Québec sur le même sujet. Rémi Vilmur, un instant. Alors, la CAQ a emboîté le pas immédiatement. On se demandait si elle allait le faire. Le ministre Gérard s'est un peu caché derrière son petit doigt ou derrière l'idée que c'est plus simple comme ça, mais enfin, c'est plus ou moins... vrai. C'est surtout très payant, on l'a tous compris. Quand on a un déficit astronomique comme à Québec, c'était difficile de passer à côté de ces sommes-là. Mais n'empêche, Rémi Vilmur, taxer davantage, c'est pas très CAQ, ça.
Bien, en fait, c'est très CAQ.
Depuis
le dernier budget. Écoutez, s'il y a des gens qui pensent encore qu'Éric Girard est le prochain ministre des Finances de Pierre Poilievre, là, vous avez un argument
c'est
de plus.
C'est pas mal terminé.
Ben, c'est pas mal terminé. C'est un ministre extrêmement dépensier. C'est pas un ministre conservateur. Il n'y a pas le profil du tout. Là. Moi, je pense que la CAQ spectacle qui n'avait pas vraiment le choix là, avec le budget qu'on nous a présenté. Ça prend de l'argent, il faut que l'argent rentre. Et c'était facile parce que d'un point de vue de la communication, ben en fait, on a qu'à dire que c'est pas, ça vient pas de nous, ça vient du fédéral, qu'en fait, on emboîte le pas, qu'on suit la, on poursuit dans la même veine, dans la même logique, et ça passe relativement bien.
En souhaitant que le paratonnerre sera M. Trudeau, et puis que, mais je suis pas certain.
Et même Pierre Poilievre, je pense qu'il s'est fait demander, il s'est fait poser la question à savoir s'il allait reculer, puis il dit, écoutez, on verra. Hein? Parce que même lui, je pense qu'il voit bien que c'était une mesure relativement utile.
Frédéric Lapointe, restons avec la CAQ, et peut-être ses déboires, où vous allez nous le dire. Alors, le WHIP, monsieur, est-ce que quelqu'un se...
Monsieur Lefebvre.
Lefebvre.
Oui, c'est ça. C'est celui, d'ailleurs, qui avait justifié la hausse de salaire des députés, hein, en expliquant qu'il n'avait pas vu sa mère depuis un an.
Oui,
c'est ça. C'est le même. Voilà, il quitte le caucus caquiste. Il reste pour le moment député à Québec. Là, il a déménagé dans l'immeuble de l'Assemblée nationale, je ne sais plus où est l'étage, où il y a les péquistes. Là, je voyais Pascal Bérubé qui accueillait son nouveau voisin de bureau. Mais donc, alors ce monsieur Lefebvre quitte pour rejoindre les conservateurs de Pierre Poilievre comme futur candidat. Est-ce que c'est le début? Évidemment, c'est l'analyse facile, mais c'est peut-être parce qu'elle est tout à fait réaliste. Frédéric Lapointe, est-ce que c'est le début d'une sorte de saignée? Voilà, il y a beaucoup de gens qui, après deux mandats, risquent d'envisager un départ à la CAQ, de quitter le navire avant que ça coule. Écoutez, et en plus, pourquoi pas s'en aller chez Pierre Poilievre, pour qui l'avenir est plein de promesses pour le moment.
Pour le très candide député de Vanier, dont j'échappe le nom, je m'en excuse auprès de lui, c'est pas le dernier. Il était surpris que ce soit lui le premier, mais c'est très surprenant de son point de vue que ce soit le dernier. Puis, il y a une...
Mario Asselin,
voilà, voilà, Mario.
Merci, Rémi Villemur.
Donc, il y a quand même un certain recouvrement, une certaine parenté idéologique entre la CAQ et les conservateurs. Si mon souvenir est bon, François Legault appelait à voter conservateur lors de la dernière
élection fédérale. Il paraît que c'était pas aussi clair que ça, mais c'est ce que tout le monde a compris.
Ça pave, ouvre le chemin de belle façon, ça, en même temps.
Il a lui-même recruté chez les conservateurs, chez les candidats conservateurs pour constituer son conseil des ministres, Pascal Béry, Éric Girard, voilà. C'est assez naturel. Puis, sans même commenter les sondages, là, évidemment que les chances de M. Poilievre d'être premier ministre dans quelques années sont infiniment plus grandes que les chances de François Legault d'être premier ministre dans quelques années. Donc, mais au-delà de la question du calcul politique, si on se pose la question, là, c'est quoi notre intérêt national là-dedans? Notre intérêt national, c'est quand même qu'il y ait autour de Pierre Poilievre des nationalistes enracinés au Québec, que Pierre Poilievre puisse faire une bonne lecture de la situation au Québec et de recruter des députés qui ont côtoyé, par exemple, des souverainistes, des indépendantistes, furent-ils repentis ou entre parenthèses.
Rendus ailleurs
en attendant de revenir, il reste que ce ne sont pas des gens qui sont déconnectés du spectre politique québécois. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle que d'avoir un Pierre Poilievre mieux entouré.
Est-ce que Rémi Villemur, un événement comme celui-là, annonce que les carottes sont cuites pour la CAQ ou est-ce qu'on va trop loin quand on tire ce genre de conclusion alors que, je le rappelle, on est loin des élections, les libéraux n'ont pas de chef, les péquistes ont peut-être atteint une sorte de sommet à partir duquel ils ne peuvent que redescendre, allez savoir, j'en sais rien.
Oui, vous vous rappelez ma philosophie, moi c'est jamais un an avant l'élection, j'avais pris plus de temps que tout le monde avant de confirmer que Pierre Poilievre allait gagner la prochaine élection. Concernant l'élection prochaine du Parti québécois, je pense qu'elle est en voie de s'accomplir, mais on n'est pas rendu là, donc les carottes ne sont pas cuites, mais je pense effectivement qu'il risque d'y avoir d'autres départs. Et l'éléphant dans la pièce, ce sont les élections municipales. Parce que elles aussi risquent peut-être d'attirer des profils de candidats, des députés de la CAQ qui pourraient vouloir devenir maire ou préfet dans les municipalités. Donc là, c'est gros ce qui arrive. Une élection municipale, une élection fédérale, on peut parler peut-être de 5, 6, 7 députés qui pourraient quitter, là.
Attirer vers les vallées verdoyantes, soit municipales, soit fédérales.
Il faut se rappeler comment avait été accueilli le départ de Joël Boutin. c'est de rendu moins en moins accepté dans la population que quelqu'un renonce à un poste pour se présenter ou en tout cas pour occuper une fonction tout de suite. Donc, c'est difficile d'imaginer beaucoup de députés de la CAQ qui démissionneraient avant l'élection pour ensuite se présenter à une autre élection et gagner l'élection. Parce qu'on pense, par exemple, à M. Lefebvre qui se présente dans Drummond-Arthabasca.
C'est ça.
Lui, il fallait qu'il joue ça de façon très subtile parce qu'il s'est dit peut-être que les gens vont dire non, mais lui, il a démissionné. Là, je veux dire, on va pas voter pour lui, donc il n'a pas démissionné. Mais il va démissionner. Donc, il prend un risque. C'est pas garanti du tout qu'il va gagner, lui.
Frédéric Lapointe, intéressant, en tout cas, c'est à suivre ce que vous nous dites là, puis d'amener l'élément municipal.
Ah, je confirme. Les rumeurs sont multiples à l'effet que des ministres tenteraient le terrain au municipal.
Oui, intéressant. En même temps, c'est curieux parce que le municipal, c'est beaucoup le terrain de jeu d'une certaine gauche aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'il y a de la place pour des gens qui arrivent de la CAQ là-dedans?
Oui.
À moins qu'on puisse imaginer que le vent tourne.
C'est bien payé, le municipal.
Oui.
C'est très bien payé. C'est mieux payé que partout ailleurs. Et le fédéral aussi, c'est très bien payé.
C'est très insulté aussi, hein, le municipal. C'est riche de ce point
de vue. On est au ras des pâquerettes.
Oui, bien sûr. Hein, c'est alors, parlant des pâquerettes, on va peut-être avoir l'air, Frédéric Lapointe, d'être au ras des pâquerettes, mais à moins qu'il y ait plus de signification ou de sens qu'il n'y paraît à première vue dans cette nouvelle-là. La ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, la, j'allais dire, sulfureuse ou controversée ministre, elle a eu des moments un peu plus compliqués. Toujours compliqué de vous montrer...
La castafiore.
Ouais. Ah bon? C'est... Oui. Je ne dirais pas qu'elle a le physique.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une très belle femme.
Le standing. Mais donc, Mme Duranceau s'est présentée en souliers Louboutin. Oui. Moi, je ne connais pas les souliers Louboutin, mais bon, c'est grosso modo, c'est 1200 $ la paire. Dans un événement, une conférence de presse en lien avec la création de logements sociaux. Et là... Il y a eu toutes sortes de réactions. D'abord, ça a été remarqué par des femmes, hein, il faut quand même le dire. Puis, plusieurs ont dit, ben, écoutez, c'est indécent d'essayer de s'occuper comme ça, d'aller dans un événement où on s'occupe des gens un peu plus mal pris en étalant comme ça sa richesse. Puis, vous avez aussi ceux qui ont dit, alors Catherine Dorion, ça fait longtemps qu'on avait parlé d'elle dans cette émission, s'est exprimée sur X, sur Twitter, en disant, bon, c'est ça, on s'occupe encore de l'habillement des femmes. Quand est-ce qu'on va faire pareil pour les hommes? D'abord, est-ce que c'est vrai qu'on ne fait pas pareil pour les hommes, Frédéric Lapointe?
Moi, je me souviens d'un candidat à la présidentielle française qui a perdu son élection à la présidentielle sur ses vestons.
Sur un veston, mais, hein, mais parce que le veston payer... était commandité.
Exact. C'est François Fillon, si mon souvenir est bon. Absolument. Mais ils étaient tellement chers qu'il fallait qu'ils soient commandités par un tiers, donc c'était peut-être plus ça le
scandale. C'est M. Fillon aussi qui employait, dont la femme était une employée fictive.
Ah, ben là, les slogans de chez les manifestants français, quand je les fréquentais dans les années 90, c'était « On veut des emplois fictifs et des appartements de fonction ». Et ça a duré. Hein,
je pense que M. Fillon était loin d'être seul.
Mais on pourrait ajouter qu'on veut des Louboutins. Hein? Ben, on veut un 2,5 et des Louboutins.
Avec la semelle rouge caractéristique. Mais là, pas de farce. Là. Est-ce que c'est vrai que... On est plus dur, on juge davantage les femmes sur leur habillement en politique? C'est une vraie question.
Oui, je pense que oui.
Ah oui?
Je pense que oui. Cela dit, on n'y passera pas l'année, là. Mais je pense que oui. Puis dans le cas de la ministre Duranceau, évidemment que si c'était arrivé à Marois-Risky, personne ne l'aurait noté.
Alors, c'est peut-être pas parce que c'est une femme autant que parce que c'est quelqu'un qui est déjà suspect.
Voilà, donc
une forme de déconnexion.
Pour que la recette prenne, hein, pour que le gâteau lève, ben ça prend plusieurs ingrédients. Puis dans le cas de Mme Duranceau, il y avait quelques ingrédients, notamment du fait que la ministre et la CAQ un peu sans gêne, puis je dis pas que c'est mal, mais c'était quand même sans gêne, ont été capables de prendre la défense des propriétaires dans le dossier de l'habitation. Là. Donc oui, ça faisait en sorte qu'il était un peu moins teflon là, face à ce genre de critiques.
Rémi Villemur, n'y a-t-il pas quand même en politique pour les hommes certains critères d'apparence physique, de façon de s'habiller peut-être, qui comptent aussi? Peut-être plus à notre époque d'ailleurs qu'autrefois, j'en sais rien, mais par ailleurs, on a beaucoup parlé du fameux complet trois pièces de Parizeau qui faisait snob. On parle des cheveux de Justin Trudeau, de sa barbe, du poids de Gaétan Barrette, mais alors là, on s'en est pas privé. Même Pauline Marois avait dit « C'est un peu curieux que cet homme soit ministre de la Santé. » C'est quand même assez fort. Imaginons le contraire à l'endroit d'une femme, ça aurait suscité beaucoup de controverses, non?
Non, je suis assez d'accord avec Frédéric Lapointe là-dessus. Je pense que les femmes attirent plus l'attention que les hommes sur ces questions-là, même s'il y a des exemples, effectivement. L'exemple de Parizeau est le bon. Là,
on revient tout le temps avec cet exemple-là.
Oui,
c'est
un très bon
exemple.
C'est un très bon exemple, mais là, il ne faut pas mélanger les affaires aussi non plus. Parce que moi, je pense, par exemple, qu'une femme peut s'habiller comme elle le veut. Elle peut porter des souliers aussi chers qu'elle le veut. Il n'y a aucun problème avec ça. Et là, j'entendais cette semaine des gens dire « Oui, mais on avait été dur aussi avec Catherine Dorion. » Mais c'est pas la même chose.
Ah,
là.
Ben...
là, elle portait un coton ouaté là, comme à la roulette à patates frites là, à côté. Là. Alors qu'elle
était
députée...
Il y avait des questions de décorum.
Oui, tout
il y avait
à fait.
Aussi
c'est pas la même chose.
Une volonté manifeste de transgresser et de faire parler de soi, évidemment.
Oui, oui. Donc, tu sais, puis il y avait aussi... Il y avait le risque, si on peut appeler ça un risque, même si le mot est trop sévère, là, d'un précédent, d'une certaine façon. Là. C'est à partir du moment qu'on commence à s'habiller comme on s'habille quand on veut regarder Netflix, ben, il n'y en a plus de décorum, on ne se lave plus, on ne se passe plus la soie dentaire. En fait, là c'est la débandade. Donc, il fallait mettre un terme à ça. Mais Mme Duranceau, moi, je trouve ça bas, en fait, là, ce genre de regard-là là-dessus. Elle ne mérite pas ça. Mais c'est sûr que ça s'inscrit effectivement dans une petite continuité. Là. C'est-à-dire
il y a une trame,
que,
quand même.
Ben, oui, là, quand elle est quand même... Elle n'est peut-être pas dans le bon ministère. Là,
ben, c'est
ce
une historique formidable, formidablement problématique, si on veut, pour occuper le poste. Ouais. C'est quelqu'un qui a vécu de la... J'allais dire pas de la spéculation, mais
de l'inflation.
D'un important gain en capital sur l'investissement immobilier, puis qui manifestement est dans la ouate aujourd'hui, en tout cas financièrement, Frédéric Lapointe.
Oh, puis c'est pas un crime. Mais peut-être que, puis les suggestions budgétaires pour Ottawa et pour Québec, donc les fameux auteurs de flip là, qui font de leur résidence principale.
Mais c'est le mot que
je
n'osais pas employer.
Là,
parce que je ne sais pas si c'était un flip, mais. Le premier immeuble de Mme Duranceau, là, on en a beaucoup parlé.
C'était peut-être pas son cas à elle.
Mais revenons un instant au sujet qui est au fond, qui est le sujet de fond derrière la question que je vous posais, c'est est-ce qu'on est plus sévère à l'endroit des femmes? Est-ce qu'il y a une forme d'injustice? Ou est-ce que peut-être on parle davantage des vêtements des femmes parce que les femmes en politique se permettent plus de créativité vestimentaire aussi? Les hommes, il y a le complet, c'est très formaté, on sort moins du rang. Les femmes s'habillent plus comme elles le veulent d'une certaine façon en politique.
Oui, c'est vrai. Elles sont plus nouvelles également. Hein. Les hommes correspondent à la même image depuis 200 ans ou à peu près. Puis quand Justin Trudeau
certains
arrive
vous diraient
avec...
depuis des dizaines de milliers d'années.
Oui, bon, il n'y avait pas de cravate hein, il y a 400 ans, là, j'imagine. Je n'ai pas souvenir, je n'étais pas là. Mais quand Justin Trudeau a des bas de couleur funky et puis qu'il les exhibe lors de ses rencontres internationales, ben ouais, ça attrape l'œil, mais on voit que...
D'ailleurs, on a parlé de ses déguisements abondamment, M. Trudeau, en Inde et ailleurs.
J'étais pour dire, ça c'était avant qu'il soit premier ministre, mais l'exemple de l'Inde me contredit.
Oui.
Hein, il a un peu continué, même
en
fonction. Ah
oui, non, je parlais pas du blackface, sinon, désolé.
Non, c'est ça. Mais donc, il a simplement à changer ses bas, puis on trouve le moyen d'en discuter. Donc, effectivement, les hommes, on s'attend à quelque chose de plus conventionnel de leur part, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ajoutent de la couleur.
Alors, Rémi Villemur, il nous reste 30 secondes. Est-ce que c'est la manifestation d'une forme de paternalisme ou du fait que le patriarcat domine encore?
Oh là là, moi j'utilise pas ces mots-là.
Non, mais enfin, un résidu culturel qui
même
fait
pas,
que...
Même pas. Le regard n'est pas le même. C'est-à-dire que le regard
qu'on porte... On renvoie les femmes à leur apparence.
Le regard qu'on porte vers les bas de Justin Trudeau, c'est on se dit, c'est pas sérieux. Mais quand on regarde l'habillement de Pauline Marois ou l'habillement de Mme Duranceau, on se dit, une petite gêne, on faudrait se garder une petite gêne. Là. Vous êtes ministre, vous parlez avec monsieur, madame, tout le monde. C'est pas le même regard qu'on porte. Donc, moi, je trouve que le regard qu'on porte vers les femmes est plus injuste. Parce qu'effectivement, si vous êtes premier ministre, ben les bas, ça a l'air un peu fou là, sur la scène internationale. Xi Jinping, il n'a pas envie de vous serrer la main, de vous regarder dans les yeux. Là.
Oui, d'ailleurs, si on se fie sur ce que vous dites, ça n'a pas marché très bien, les noms avec la Chine. Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois, merci d'avoir été avec nous pour traiter de questions aussi profondes que celle-là ce midi. Mm-hmm. Et à vous aussi, Rémi Villemur, doctorant en sociologie, détenteur d'une maîtrise en histoire. Merci beaucoup à Lysandre Duplay à la mise en onde et surtout, d'abord et avant tout, chers auditeurs, merci à vous d'être si nombreux à l'écoute. C'est un privilège pour nous, évidemment, de vous savoir là à chaque semaine. Justement, je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même poste.